Une seule offrande, divers sacrifices. 1. L'Holocauste. Lévitique chapitre 1, chapitre 6, versets 1 à 6, chapitre 7, verset 8.
Lecture de la parole. Lévitique chapitre 1er. Et l'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant: Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, un mâle sans défaut. Il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, et il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui. Et il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang, et ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il écorchera l'Holocauste, et le coupera en morceaux. Et les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel, et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour l'holocauste est de menu bétail, d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, il la présentera, un mâle sans défaut, et il l'égorgera à côté de l'autel vers le nord, devant l'Éternel. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour, et il le coupera en morceaux avec sa tête et sa graisse, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel, et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur présentera le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseau, il présentera son offrande de tourterelle ou de jeune pigeon. Et le sacrificateur l'apportera à l'autel et lui détachera la tête avec l'ongle et la fera fumer sur l'autel. Et il en épreindra le sang contre la paroi de l'autel. Et il ôtera son gésier avec son ordure, et les jettera à côté de l'autel vers l'Orient, au lieu où sont les cendres. Et il fendra l'oiseau entre les ailes, il ne le divisera pas, et le sacrificateur le fera fumer sur l'autel, sur le bois qui est sur le feu. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Lévitique 6, versets 1 à 6. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande à Aaron et à ses fils en disant, « C'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra sur sa chair ses caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumé sur l'autel, et la mettra à côté de l'autel. Et il ôtera ses vêtements, et revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera, on ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin, et y arrangera l'Holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Lévitique chapitre 7, verset 8. Et quant au sacrificateur qui présentera l'holocauste de quelqu'un, la peau de l'holocauste qu'il aura présentée sera pour le sacrificateur. Elle lui appartient.
Lecture de l'étude. Comme nous l'avons vu, l'holocauste, le sacrifice brûlé tout entier sur l'autel, vient en premier lieu. Il importait, en effet, de mettre d'abord en évidence la perfection de la victime, perfection qui ne peut être appréciée pleinement que par Dieu seul. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, « À cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie. » Citation de J.N. Darby. Le centre et le fondement de notre accès auprès de Dieu est l'obéissance de Christ et son sacrifice. Fin de citation. L'Israélite qui s'approchait de la tente d'assignation était muni d'une offrande parfaite, un mâle sans défaut. Christ pour Dieu. Déjà, pour la Pâque, il fallait un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. 1 Pierre 2, verset 22, nous dit du Seigneur Jésus qu'il n'a pas commis de péché.
Lui qui n'a pas commis de péché est dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude.
Alors que si facilement nous manquons, lui, dans aucun de ses actes, dans aucune de ses attitudes, dans aucune de ses pensées, n'a commis de péché. Mais il y a plus. 2 Corinthiens 5, verset 21 précise « Il n'a pas connu le péché. Il n'avait aucune affinité pour le péché, aucune propension, aucun désir vers lui, comme nous les constatons trop souvent en nous-mêmes. » Plus encore, 1 Jean 3, verset 5 ajoute « Il n'y a pas de péché en lui. » Non seulement il n'a pas commis de péché, de faute, mais le péché ne l'effleura jamais, la nature pécheresse ne se trouvait pas en lui. Il a bien été tenté en toutes choses comme nous, mais la parole précise, à part le péché. Hébreux 4, verset 15.
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché.
Voulons-nous le témoignage de ceux qui ont vécu avec lui et n'étaient pas ses amis? Le brigand crucifié à ses côtés a déclaré « Celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire ». Judas, plein de remords de l'avoir vendu, revient en disant « J'ai livré le sang innocent ». Ses ennemis, en le voyant sur la croix, déclarent « Il a sauvé les autres ». Et Pilate, avant de le condamner, a répété « Je ne trouve aucun crime en cet homme, je suis innocent du sang de ce juste. » Nous pourrions multiplier les passages où brille et s'impose cette perfection du Seigneur Jésus. Ce sera, pour chacun, un sujet d'étude béni de tâcher de les découvrir. Mais si la victime devait être présentée sans défaut, il fallait aussi que l'intérieur fût manifesté comme répondant à l'extérieur. C'est pourquoi elle était écorchée, puis coupée en morceaux. Le Seigneur Jésus a pu dire par le psalmiste « Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole ». Toutes les diverses parties de son être étaient également parfaites. La victime était ensuite lavée avec de l'eau, l'intérieur et les jambes. La parole a mis à l'épreuve Christ dans sa vie, et dans son dévouement jusqu'à la mort, non pas pour ôter quelques souillures, mais pour prouver que tout était parfait. Dans son être intérieur, dans ses pensées intimes, dans ses affections, tout a été manifesté comme correspondant pleinement à la pensée de Dieu. Dans sa marche, les jambes, il a toujours montré parfaite dépendance, pleine obéissance. Citation de J.N. Darby. Le lavage d'eau rendait le sacrifice typiquement ce que Christ était, lui, dans son essence, c'est-à-dire pur. Fin de citation. la victime sans défaut, écorchée, coupée en morceaux, lavée, était ensuite placée sur le feu de l'autel. Le jugement de Dieu a mis à l'épreuve tout ce qu'était Christ, mais tout a été trouvé excellent, une odeur agréable à l'Éternel. Jésus s'est offert lui-même. Il a rencontré le jugement de Dieu. Durant les heures de ténèbres, les quelques femmes et disciples qui s'étaient rassemblés au pied de la croix se sont éloignés et regardaient de loin. Dieu seul peut apprécier pleinement l'excellence de la personne de son Fils et la valeur de son sacrifice. Mais si nous ne pouvons y entrer, notre part bénie est de contempler et d'adorer. Agréé pour lui. Celui qui s'approchait de l'entrée de la tente d'assignation, conscient de ne pas être en lui-même propre pour la présence de Dieu, s'était pourvu d'une offrande parfaite. C'est à cause d'elle qu'il osait s'approcher pour être agréé devant l'Éternel. Il ne s'agit pas de pardon de péché ni de purification ici. Il est précieux de savoir que Jésus est mort pour nos fautes et que son sang nous purifie pleinement, mais c'est en quelque sorte un côté négatif. Il s'agit d'apporter à Dieu une offrande qui soit agréable pour lui. Sera-ce notre marche, notre dévouement, le fruit de nos efforts? C'est ce qu'a pensé Caïn, avec le fruit de son travail, mais l'Éternel n'a pu agréer son sacrifice. Abel, conscient de ne pas répondre en lui-même à la pensée de Dieu, apporte des agneaux de son troupeau, sacrifice sanglant d'une autre victime en qui il pouvait être agréé, et il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Non seulement il fallait apporter une offrande parfaite, mais il s'agissait de s'identifier avec elle, de dire en quelque sorte par ce geste, « C'est elle qui sera agréée pour moi, c'est elle qui fait propitiation. » 1 Jean 4, verset 17 affirme, « Comme il est lui, nous sommes. » Dieu nous voit en Christ, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6.
À la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé.
Il nous reçoit comme il reçoit son Fils. Nous en avons un exemple dans l'épître à Philémon. Onésime, esclave, s'était enfui de chez son maître Philémon. Entré en contact avec Paul, prisonnier, il est amené au Seigneur. Il s'agit maintenant de renvoyer l'esclave à son maître, mais comment celui-ci l'accueillera-t-il? Paul s'emploie à ce que Philémon reçoive Onésime, comme, en quelque sorte, Christ s'est employé pour que Dieu nous reçoive. Il écrit, « S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte, moi je paierai. » Ces paroles rappellent le sacrifice pour le péché. Le Seigneur Jésus répond à toutes nos fautes. C'est lui qui a payé la dette de nos péchés. Pourtant, cela ne rendait pas nécessairement Onésime agréable à Philémon. Tout au plus, un obstacle à sa réception était-il ôté, puisque Paul paierait. Philémon ne pouvait refuser de recevoir Onésime. Mais nous trouvons aussi la contrepartie de 1 Jean 4, verset 17. « Si tu me tiens pour associé, à toi, reçois-le comme moi-même. »
1 Jean 4, verset 17. « En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que, comme il est lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. »
L'apôtre lui-même eût été fort agréable à Philémon, qui l'aurait reçu les bras ouverts. Il devait donc recevoir Onésime, comme il aurait reçu Paul. Ainsi Dieu nous reçoit comme il reçoit son Fils, comme il est lui, nous sommes. Voilà de quoi nous donner toute assurance au jour du jugement, et de nous faire entrer pleinement dans l'amour de Dieu. En ceci est consommé l'amour avec nous. Ainsi, perdant de vue ce que nous avons fait et ce que nous sommes, nous pouvons nous présenter devant Dieu, non pas à vide, non pas avec le fruit de notre travail, mais en Christ. lorsque celui qui s'approchait posait sa main sur la tête de la victime, c'était en quelque sorte les mérites de l'offrande qui passaient sur l'adorateur qui lui était imputé. Lui a été agréé à ma place. À ma place seulement? Non. À celle de tous mes frères, de tous les rachetés du Seigneur, quels qu'ils soient, malgré leur ignorance ou leur faute, certainement pas plus grande que les miennes. Sachons toujours voir les enfants de Dieu en Christ, rendus parfaits comme il l'est lui-même. Après avoir apporté son offrande et avoir posé la main sur sa tête, étant ainsi agréé, l'Israélite aurait pu s'en retourner chez lui. D'aucune façon. Il devait lui-même égorger la victime. Il faut à chaque adorateur un sentiment profond de la nécessité de la mort de Christ. Pour achever l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire, il ne suffisait pas qu'il fût parfait dans sa vie, pleinement agréable à Dieu. Il fallait qu'il mourût. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses ? Sur la montagne de la Transfiguration, tout était gloire et lumière. Mais de quoi Moïse et Élie s'entretenaient-ils avec Jésus? Ils parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'adorateur devait aller plus avant. Il écorchait l'offrande. Il la coupait en morceaux. Pour pouvoir les présenter à Dieu dans l'adoration, il faut approfondir les perfections du Seigneur Jésus. Contempler comment, non seulement à l'extérieur, il a été parfait, mais combien dans ses pensées, dans son être intime, il a pleinement glorifié Dieu. Nos cœurs ainsi exercés pourront alors, conduits par l'Esprit, offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui rappellent un peu mieux ce que son Fils a été pour lui. Ce qui était directement en rapport avec l'autel était réservé au sacrificateur, fils d'Aaron. Un sacrificateur, comme nous l'avons dit, est une personne spirituelle qui, vivant près de Dieu, saisit ce qui lui est dû. Les sacrificateurs présentent le sang et en font aspersion tout autour sur l'autel. Valeur infinie du sang de Christ qui est entré dans la mort pour accomplir jusqu'au bout la volonté de Dieu. Les sacrificateurs arrangent aussi le bois et le feu, puis y mettent les morceaux de la victime, la tête, la graisse, et font fumer le tout sur l'autel. Nous ne pouvons pénétrer dans ce qu'a été Christ, sous le jugement de Dieu, tel que, par exemple, le psaume 22 nous le présente. Mais nous pouvons en parler à Dieu, le considérer devant lui, le faire monter comme un parfum agréable. Éphésiens 5, verset 2 le précise, tout d'abord, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, c'est notre part, mais ensuite, s'est livré comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur, c'est la part de Dieu, c'est l'holocauste. L'offrande de menu bétail. Tous les Israélites n'apportaient pas de taureau. Ceux qui étaient trop pauvres se contentaient d'un agneau ou d'un chevreau. Bien des détails des versets 10 à 13 correspondent au paragraphe précédent, mais certains traits font défaut. L'adorateur ne posait pas sa main sur la tête de la victime. Il avait bien conscience de la perfection de l'offrande. Mais il ne s'identifiait pas avec elle. Bien des enfants de Dieu savent que Christ a été parfait en toutes choses, mais ils n'ont pas saisi, par la foi et par la grâce de Dieu, que, comme il est lui, nous sommes. L'Israélite n'écorchait pas non plus son offrande. Il n'y a pas la même contemplation des perfections intérieures du Seigneur Jésus. Mais si la vision de Christ est moins complète, moins nette, elle est cependant réelle, et l'offrande brûlée sur l'autel reste un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. L'offrande d'oiseau. Voici une offrande plus faible encore. Pourtant, l'adorateur a voulu s'approcher. selon ses moyens, il a apporté ce qu'il pouvait, une offrande qui n'est pas sans défaut, et dont il faudra ôter le gésier et son ordure. Ce n'est plus l'adorateur qui égorge ou qui écorche, c'est le sacrificateur qui fait presque tout. L'intérieur de la victime n'est pas apprécié. L'oiseau est seulement fendu et pas divisé. On n'entre pas dans le détail des perfections de Christ. Toutefois, si l'adorateur est faible, le sacrificateur sait mettre en valeur cette offrande et exprimer ce qui était vague dans l'esprit et le cœur de celui qui s'est approché. Au culte, tel frère saura exprimer dans la prière ce qui n'était jusque-là qu'imprécis et vague dans le cœur de certains de ses frères. Ainsi encouragés, ceux-ci seront à même une autre fois d'apporter peut-être un agneau. Mais quoi qu'il en soit, malgré la faiblesse, la pauvreté même, notre chapitre déclare expressément, c'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Pensée consolante et qui nous garde de nous décourager. Si faible et petite soit l'offrande, elle est quand même agréable à Dieu, parce que son Fils lui a été présenté en quelque manière. Il s'agit de faire des progrès spirituels. Si un enfant en Christ n'apporte qu'un oiseau, un jeune homme, selon 1 Jean 2, apportera un agneau et un père un taureau. Mais prenons-y garde. On peut avoir avancé dans les choses de Dieu, avoir été à même d'apporter un taureau, puis, par faute de communion avec le Seigneur et de vigilance, retomber dans un état pratique qui ne nous permette d'apporter qu'un agneau ou une paire d'oiseaux. S'il importe de faire des progrès dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est aussi capital de veiller à notre marche et à tout ce qui entrave notre communion avec Dieu. Toute la nuit. En Lévitique 6, versets 1 à 6, il est répété plus d'une fois que l'holocauste devait être sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Le feu y brûlait continuellement. On ne devait pas l'y laisser s'éteindre. Christ s'est offert une fois pour toutes, et son sacrifice ne devra jamais être répété. Mais le mémorial de son offrande, le parfum de l'Holocauste, monte continuellement devant Dieu pendant la nuit de son absence. Combien il est précieux pour le cœur du Père de voir, dans ce monde de ténèbres, des cœurs apprécier l'œuvre de son Fils et faire monter continuellement devant lui, dans la louange, cette odeur agréable de son sacrifice. Le psaume 134, point culminant des cantiques des degrés, nous dit « Voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Levez vos mains dans le lieu saint et bénissez l'Éternel. » Et si, pendant la nuit de son absence, la fumée de l'Holocauste monte continuellement en parfum de bonne odeur devant Dieu, sa valeur ne cessera d'être à toujours agréable devant lui, quand tous les rachetés autour du trône chanteront le cantique nouveau.